Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le pape et les membres de la Curie sont revenus ce vendredi au Vatican au terme de leurs exercices spirituels de carême. François a salué le prêtre romain qui a prêché ces exercices, le remerciant d'avoir semé la parole de Dieu. Nous consacrerons une large place au Moyen-Orient dans ce magazine avec l'assemblée de la hiérarchie catholique en Syrie qui a tenu sa session de printemps ce mercredi au Liban. Et nous parlerons aussi de Fraternité en Irak, une association de bénévoles dont le but est d'aider les minorités religieuses d'Irak à rester dans leur pays. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Les exercices spirituels de carême du pape et de la curie romaine se sont achevés ce vendredi. Pour la première fois, ils avaient lieu cette année en dehors du Vatican, dans une maison tenue par les pères pauliniens à Ariccia, non loin de Rome. Avant de rentrer en quart dans la matinée au Vatican, le pape François a prononcé un petit discours pour remercier Monseigneur de Donatis, le prêtre romain qui a prêché ses exercices. « Je voudrais vous remercier au nom de tous pour votre aide ces jours-ci, votre accompagnement, votre écoute », a dit le pape. « À présent, nous revenons à la maison avec une bonne semence, la semence de la parole de Dieu. Le Seigneur enverra la pluie pour qu'elle croisse et donne du fruit. Remercions le Seigneur pour cette semence et pour la pluie qu'il enverra. « Je vous demande de continuer de prier pour nous », a dit encore le Saint-Père. « Nous sommes tous pécheurs, mais nous avons tous la volonté de suivre Jésus d'encore plus près, sans perdre l'espérance dans la promesse, mais aussi sans perdre le sens de l'humour », a dit le pape François. Le souverain pontife qui est intervenu sur les ondes d'une petite radio locale d'un bidonville de Buenos Aires, sa ville natale en Argentine, Radio Bajo Flores, un entretien exceptionnel réalisé à l'occasion de l'anniversaire de son élection pontificale et qui a été diffusé sur cette petite radio ce jeudi. Xavier Sartre.
Dans cet entretien exclusif à une radio qui lui est chère, le pape répond à une douzaine de questions qui lui avaient été soumises quelques jours plus tôt par les responsables de Radio Bajo Flores. Les discussions sont centrées sur l'Église, l'Évangile et les pauvres. François est notamment revenu sur la pastorale des prêtres dans le bidonville, un dossier dans lequel il était particulièrement impliqué lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires. Le pape a ainsi mis l'accent sur l'éducation des jeunes et des prêtres qui les accompagnent, soulignant que leur travail éducatif n'est pas idéologique, mais apostolique. Au cours de cet entretien, François a aussi relevé que certaines mauvaises langues prenaient ces ecclésiastiques pour des communistes, alors qu'ils sont, a-t-il dit, de grands prêtres qui luttaient pour la justice. Le Saint-Père n'a pas non plus oublié de saluer tous ceux qui sont en prison dans ces quartiers défavorisés ainsi que leurs familles. À une question lui demandant ce qui lui plaisait le moins dans sa mission pontificale, le pape a répondu qu'il s'agissait du travail à son bureau et de la paperasserie qui en découle. François a enfin salué le travail de cette radio communautaire et son utilité dans le tissu social local, évoquant une communication affectueuse qui parle de la réalité et de la vie de manière désintéressée.
Le choc et la consternation règnent parmi les chrétiens indiens après la décision de ce vendredi. Décision au cours de laquelle un tribunal de district de Kandamal en Orissa a condamné 3 personnes et en a acquitté 6 autres suite au viol de groupe de la religieuse catholique Meena Barua. Le viol fut l'un des crimes les plus odieux perpétrés au cours des massacres antichrétiens de 2008 en Orissa, lorsque plus de 400 villages furent nettoyés de tous leurs chrétiens, plus de 5600 maisons et près de 300 églises incendiées. Au cours de ces violences, plusieurs femmes avaient été violées alors que 56 000 personnes, femmes et enfants compris, demeurèrent sans abri. Sœur Barua fut violée par plusieurs hommes et humiliée, contrainte de défiler à 2 minutes dans la rue. Selon le Conseil global des chrétiens indiens, cette décision est une parodie de justice, attendu que les 9 criminels étaient clairement identifiés. L'agence Fides rapporte pour sa part que sur 3232 plaintes déposées par des chrétiens après les massacres en Orissa, la police en a accepté 1541. De celles-ci, seuls 828 provenant de particuliers ont effectivement été suivis par un procès. Plus de détails sur notre site internet www.radiovaticana.va. Une nouvelle flambée de violence au Nigeria. Au moins 69 personnes ont été tuées par des hommes armés lors de plusieurs attaques jeudi dans 4 villages du nord-ouest du pays. Les Fulani, des bergers musulmans accusés d'avoir mené plusieurs vols violents dans cette région, sont soupçonnés d'avoir participé à ces massacres. Ils se plaignent depuis plusieurs années d'avoir de moins en moins de terres où faire paître leur bétail. Les conflits fonciers et entre tribus sont monnaie courante dans le pays. Ils ne sont le plus souvent pas de nature religieuse. La plupart de ces violences qui impliquent des Fulani sont concentrées dans le centre du Nigeria, zone de nombreuses tensions entre ces bergers musulmans et des fermiers chrétiens. Sachez que 33 Nord-Coréens ont été condamnés à mort par le régime pour avoir accepté de l'argent d'un missionnaire sud-coréen afin de fonder des églises clandestines. D'après les autorités nord-coréennes, ils se sont rendus coupables d'une tentative de renversement du pouvoir. C'est ce que rapporte un journal sud-coréen, le Chosun Ilbo, relayé par l'Organisation de défense des chrétiens, Portes ouvertes. On ignore encore si toutes les personnes arrêtées sont chrétiennes. Ces condamnations à mort montrent que le régime de Pyongyang continue de faire preuve d'une extrême brutalité, commente l'ONG Portes ouvertes dans un communiqué publié ce vendredi. L'organisation précise que Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a donné personnellement l'ordre aux service de sûreté de nettoyer le pays de tous les éléments impurs. Fin de citation. Ouvrons à présent une page Moyen-Orient dans ce magazine. L'Assemblée de la hiérarchie catholique en Syrie a tenu sa session de printemps pendant une journée ce mercredi. En raison des grandes difficultés de circuler à l'intérieur de la Syrie, cette assemblée s'est tenue au Liban voisin, à la résidence patriarcale grecque melkite catholique de Raboué, non loin de Beyrouth. Cette réunion était présidée par sa béatitude le patriarche Grégoire III Laham, président de l'assemblée, en présence de Mgr Ignace Youssef III Younan, le patriarche d'Antioche des Syriens catholiques, mais aussi du nonce apostolique en Syrie, Mgr Mario Zenari. Également présent, Mgr Boutros Marayati, l'archevêque d'Alep des Arméniens catholiques. Il revient sur les différents points qu'ils ont abordés au cours de cette assemblée, et notamment sur ce point de la déclaration finale où ils affirment qu'ils sont solidaires de leur pays bien-aimé, la Syrie, peuple et gouvernement.
S'il y a un peuple, il y a toujours un gouvernement. Nous n'avons pas dit ce gouvernement. Nous avons dit que la Syrie doit être gouvernée. Quel gouvernement qui peut arriver, la Syrie doit être gouvernée, non? Alors, ce n'est pas seulement un peuple qui n'a pas de tête, mais un peuple avec des institutions. Et ça, c'est le dialogue maintenant qui se fait à Genève, où nous cherchons une issue pour trouver une méthode ou bien quelque chose pour reconstruire avec un gouvernement qui peut être un gouvernement de passage, de suite, à condition que le terrorisme s'arrête. Alors ce que nous avons le plus demandé, c'est un cessez-le-feu. Sans cessez-le-feu, rien ne vaut plus.
Et donc au-delà de cette déclaration, quels ont été les points abordés lors de cette rencontre ?
On a discuté tous ensemble comment on peut travailler avec Caritas et les autres organisations internationales de bienfaisance et comment aider nos fidèles, surtout ceux qui sont restés là sur place, à continuer leur vie dignement. Il n'y a pas seulement des réfugiés qui ont quitté le pays et qui vivent sous les tentes, mais les réfugiés chrétiens sont vraiment les réfugiés qui sont maintenant dans leur maison. Alors, nos fidèles qui restent à Alep, surtout, ils sont dans leur maison, mais ils sont réfugiés parce que sans électricité, sans eau, sans manger, sans le fuel, avec le froid et tout ça, nous nous sentons que nous sommes vraiment des réfugiés à l'intérieur de notre maison et ce genre de citoyens ont besoin maintenant d'une aide spéciale, surtout que les médicaments manquent, les médecins manquent, les hôpitaux manquent. Et voilà, ça c'est pas seulement les réfugiés qui ont quitté le pays, mais les gens qui restent. Et nous voulons qu'ils restent. C'est pourquoi nous avons voulu que cette déclaration soit un appel d'espérance pour garder ce petit troupeau qui reste encore.
Et quelles sont donc les initiatives pour aider le peuple syrien ?
Comme chrétiens, comme église, nous avons notre petite société de bienfaisance, nous avons nos jeunes, nos organisations et nous essayons un peu, par l'aide de Caritas, de pouvoir arriver à aider l'hôpital. Je peux dire qu'on a organisé sur 4 niveaux. D'abord, pour ce qui est nourriture, dans quelques centres, il y a un repas à chaque jour, un repas chaud qui est distribué dans les églises. Et le deuxième niveau, ce sont les écoles. Il faut payer les professeurs. Alors ça aussi, il faut aider un peu sur ce niveau de l'instruction. Le troisième point, c'est tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est opérations. Ça devient très cher de trouver des médicaments, de trouver des hôpitaux et tout ça. Alors, nous aidons aussi les malades ou bien ceux qui ont été touchés par des bombes ou autre chose. Et le quatrième niveau, c'est aider les gens à construire leur maison si ces maisons ont été touchées par des obus. Alors, vous voyez, sur ces plans-là, sur ces niveaux, nous avons organisé les dons pour les distribuer selon des critères aux plus démunis.
Ça fait aujourd'hui 3 ans que le conflit en Syrie a commencé. Oui. Si vous deviez lancer un appel.
Et alors, ça fait 3 ans en Syrie, mais ça fait 2 ans à Alep. Et Alep fut la plus touchée, malheureusement. Et notre appel, c'est toujours de dire à tous ceux qui sont des ennemis aujourd'hui que ça ne sert à rien. Et tous, nous allons sortir perdants. Personne ne va gagner. Alors, pourquoi continuer comme ça à détruire un pays? Alors, il faut bien s'arrêter et venir au dialogue et trouver une issue pour reprendre une vie et recommencer à reconstruire ce pays pour un avenir meilleur pour nos enfants.
C'était Mgr Marayati, archevêque d'Alep des Arméniens catholiques, au micro d'Audrey Radondi. Pas un jour sans que des nouvelles alarmantes nous parviennent d'Irak. Bombes, attentats suicides, attaques en tout genre. L'image d'un pays exsangue, déchiré, gagné par le chaos, s'est imposée à nos esprits. La violence, totalement banalisée car quotidienne, frappe toute la population sans distinction et menace directement la présence pluriséculaire des chrétiens sur cette terre. Ces chrétiens étaient encore 1 million en 2003, ils ne sont à présent plus que 300 000. Touchés par le drame de ces populations, de jeunes Français ont décidé de leur apporter une aide concrète. Ainsi est née Fraternité en Irak, une association de bénévoles dont le but est d'aider les minorités religieuses du pays à rester en Irak en permettant à ces minorités de jouer un rôle positif pour la majorité qui les entoure. Comment ? Par la mise en œuvre de divers projets de développement à but humanitaire et éducatif. Chaque année, en été, de jeunes bénévoles se rendent sur le terrain à Bagdad, Kirkouk ou Karakoche à la rencontre des minorités chrétiennes irakiennes. Écoutez Farage Benoît Kamura, le président de l'association Fraternité en Irak.
L'angle de Fraternité en Irak, c'est d'identifier des projets portés localement pour que ces minorités jouent un rôle positif pour la majorité qui les entoure. À travers des projets comme l'école multiconfessionnelle de Kirkouk, ouverte par Mgr Sacco, les enfants de toutes les communautés de la ville, kurdes, turkmènes, chiites, sunnites et évidemment chrétiens, se rencontrent, sont à l'école ensemble, et la paix, au fond, elle se construit aussi dès le plus jeune âge. À Karakoche, les projets que nous avons soutenus, ce sont des projets vraiment de première nécessité. On soutient un dispensaire pour lequel Fraternité en Irak fournit des médicaments et un cabinet de dentiste pour en fait des populations réfugiées, des familles qui habitaient Bagdad ou qui habitaient Mossoul et qui se sont réfugiées à Karakoche, qui ont tout perdu, il faut bien le dire, qui vivent dans un état de dénuement très important. Enfin, toujours à Karakoche, un des dernières actions de l'année dernière, c'était de permettre justement à des familles réfugiées d'avoir un accès à de l'eau potable en installant 150 purificateurs d'eau. L'enjeu, c'est que vraiment ces réfugiés qui viennent à Karakoche se sentent accueillis dans cette ville, qui sentent que voilà, ils sont un petit peu pris en charge et que ainsi ils ne soient pas tentés de suivre le chemin de l'exode comme l'ont fait malheureusement beaucoup d'autres membres des minorités d'Irak, qu'ils soient chrétiens, yézidis ou mandéens.
Le propre d'une église vivante, c'est la persécution. On le voit bien en Irak, où justement les chrétiens, bien qu'éprouvés, sont porteurs d'une vraie espérance, une espérance qu'ils sont appelés à concrétiser dans l'engagement.
Tout à fait. Cet engagement, on le voit à travers tous les projets, la vivacité extraordinaire qu'ont les responsables religieux d'Irak, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient yézidis ou mandéens par exemple. Les évêques d'Irak ont tous beaucoup de projets, des projets d'école, des projets vraiment humanitaires, comme on le disait tout à l'heure dans le domaine de l'eau par exemple, ou de la santé. De ce point de vue-là, il y a vraiment une vivacité qui montre cette volonté chevillée au corps qu'ils ont de continuer à vivre dans le pays de leurs pères et dans le pays de leurs ancêtres. Et de ce point de vue-là, cet espoir, il est enraciné dans l'engagement, et cet engagement, il est très simple. Tous ces chrétiens d'Irak que nous avons vus, pour la plupart d'entre eux, ont choisi de rester en Irak. Ils auraient pu partir en Turquie, ils auraient pu partir à l'étranger. Et leur engagement et leur espoir est fondé dans leur engagement, et cet engagement, ils l'ont pris en choisissant de rester dans leur pays. Et c'est ça qui est vraiment une leçon pour nous, occidentaux, qui vivons dans des pays en paix, sans danger.
Fraternité en Irak veut aider les chrétiens à jouer un rôle positif dans la société, car les chrétiens ont un rôle à jouer sur le plan politique, social, pour la paix notamment. Ils en ont conscience. Alors, que reste-t-il à faire de plus ?
Ce qui est vraiment important, c'est qu'on a vécu trop longtemps en Occident, en Europe, en oubliant qu'il y avait des minorités chrétiennes importantes, détentrices d'un grand héritage culturel, religieux, liturgique, et surtout qui sont le gage d'un Proche-Orient équilibré, d'un Proche-Orient qui ne laisse pas face à face chiites et sunnites, mais qui leur permettent d'avoir des lieux où se rencontrer. Ces lieux où se rencontrer, ce sont en général avec les chrétiens. Par exemple, je rappellerai le fait que les deux principaux leaders chiites et sunnites d'Irak ont pu se retrouver à nouveau dans la même pièce, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps à l'occasion de l'installation du patriarche Sacco, par exemple. Je crois que les chrétiens ont conscience qu'ils peuvent et qu'ils ont un rôle déterminant à jouer pour la paix dans ce pays. Aujourd'hui, c'est en Europe qu'il y a un travail de conscience à faire, où trop souvent nous oublions la chance que nous avons de pouvoir pratiquer librement notre religion, d'une part, et où surtout nous oublions que d'autres risquent leur vie pour pratiquer leur foi. Je crois que aujourd'hui, en France, en Europe, il est important que nous soyons plus attentifs, plus préoccupés par le sort des chrétiens et des minorités du Proche-Orient et spécialement d'Irak.
Pouvez-vous nous parler d'une rencontre qui vous a particulièrement marqué ?
Moi, je repense à René, par exemple. René, un séminariste qui est un survivant d'un attentat terrible, un attentat qui a visé des étudiants chrétiens de Karakoche qui se rendait à l'université de Mossoul. René a été blessé gravement dans cet attentat et c'est impressionnant de l'entendre dire qu'il pardonne à ceux qui ont organisé cet attentat. C'est impressionnant de voir que malgré cette violence, il a choisi de rester dans son pays. Une dernière personne quand même qui m'a beaucoup touché, c'est une femme de Mossoul que nous rencontrons un matin qui me dit « Voilà, moi hier encore, j'ai entendu les bombes exploser pas très loin de chez moi. » Et voilà, avant de sortir de chez moi, évidemment, je prie, je demande à Dieu de me protéger. Et évidemment, la question naturelle qu'on lui pose, « Mais pourquoi est-ce que vous restez à Mossoul ?» Et elle dit, « Parce que nous sommes le levain dans la pâte. » C'est quand même extraordinaire. Enfin, voilà, moi j'ai été très, très touché par cette application extrêmement concrète du message évangélique.
Des propos recueillis par Manuela à Fiji. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.